Radio Campus.
Campus.
La nuit.
On réécoute une émission magazine, suivie d'une émission musicale à 4 heures.
On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillerproduction.com et sur ticketmaster.fr.
Tout va très bien, on vous le dit sur tous les médias, et même sur Radio Campus Lille. Hein. Nous sommes le premier mercredi du mois, il est midi, alors c'est l'heure des bons calculs économiques sur Radio Campus Lille. Alors autour des micros, Benoît Boussemard, bonjour Benoît.
Bonjour André, bonjour à tous et à toutes.
Voilà, et André, hein. Bon, tout va très bien, à part un petit rien, on va peut-être vous parler de ce petit rien. Hein, mais bon, tout va très bien pour certains et pour certaines, d'après ce que tu m'as dit, Benoît.
On va voir ça tout à l'heure.
Tout de suite, petite... maintenant, on y va.
On s'occupe tout de suite de notre petite famille.
Là. L'émission est commencée, voilà. Roubaix, ville saccagée, ville morte, avec quelques familles.
Ouais.
Toujours, dont certaines.
Toujours les mêmes, donc, qui pomment dans ce genre de situation. Alors... J'avais commencé à faire un tout petit travail sur tout va très bien en regardant l'évolution du chômage. Alors, tout va très bien dans l'évolution du chômage.
En France.
En France, puisque l'évolution du chômage en France augmente. T'as vu ça ?
Ah bah, c'est... il y a quelque chose qui s'améliore au moins.
Au moins, l'évolution du chômage de toutes les catégories A, B et C, donc les plus importantes, hein, elles ont augmenté sur un trimestre de 4,5%. C'est bien. Et sur un an, elles ont augmenté de 6,4%. Donc, l'amélioration est à noter. Monsieur Macron fait fort, Monsieur Macron fait très fort pour lutter contre le chômage. Alors, dans ces catégories affectées par l'évolution positive du chômage sur un trimestre, les moins de 25 ans, ça a augmenté de 20,9%. Ça veut dire que les jeunes qui sortent du système scolaire ont beaucoup de difficultés à trouver des jobs. C'est pas aussi facile que ça. Pourtant, tout est fait pour leur faciliter le travail, des stages, l'IA, etc., etc. On ne voit plus les...
Des centraux, des numéros de téléphone aussi qu'ils peuvent appeler.
Ouais, tout à fait, mais t'as un numéro de téléphone quand tu l'appelles, on trouve un boulot. Pas que je sache, hein. Donc, bon. Alors, tu regardes sur l'ensemble des catégories, les catégories A de moins de 25 ans, c'est 8,7% d'augmentation du chômage en un trimestre. Donc ça, c'est important. Ils étaient au quatrième trimestre 2024, 3 135 000. Ils sont maintenant 3 400 000. Donc ça représente un beau paquet de gens qui sont en recherche d'emploi et véritablement en recherche d'emploi. Donc ces feignants de jeunes, c'est pas aussi évident parce qu'ils recherchent bien du travail, mais le problème c'est que tu n'en trouves pas.
Hein? Oui, enfin ça c'est, d'après notre bien-aimé gouvernement, ça c'est ce qu'on dit, hein. Mais bon, on va réduire les allocations chômage et autres, comme ça ils trouveront plus vite.
C'est ça.
Ou ils accepteront plus vite n'importe quoi.
Voilà, c'est plutôt ça, la deuxième solution qui est recherchée, hein, parce que quand t'as pas de boulot à qualification égale, qu'est-ce que tu fais ? Tu te déclasses toi-même, tu prends n'importe quel boulot pourvu que tu puisses travailler. Parce qu'on va te sucrer tes allocations chômage, ou on va les diminuer fortement. Donc, le problème, il va être là. Choisir entre travailler pas cher, ou alors trouver un job qui soit pas à la hauteur de tes aspirations.
Alors, voilà, après, payer son loyer, manger.
Ouais. Hein, déjà manger.
Voilà.
Et ensuite payer son loyer avec des salaires qui sont plutôt à la baisse, donc
tout ça. Y en a qui veulent augmenter les salaires, par exemple. Monsieur Gabriel Attal, là, il veut rapprocher le salaire net du salaire brut.
Hein, comment il fait ?
Je ne sais pas.
Bon, parce que le salaire net et le salaire brut, tu as toutes les cotisations sociales qui sont importantes pour gérer justement. La sécurité sociale,
la santé,
la maladie, etc.
Maladie, les retraites aussi.
Bon, les retraites aussi.
Ouais.
Donc ce cher Gabriel Attal, il veut faire quoi exactement ?
On ne sait pas.
Ouais, mais c'est dangereux parce que c'est un petit ambitieux. On l'a vu, il veut se présenter éventuellement à la présidentielle.
Si tu as du parquet, l'invite pas chez toi.
Non.
Il va y avoir plein de rires.
Il veut parquet, ouais. Donc, alors, quand même, il faut quand même dire les chiffres. Les chiffres par rapport à l'année dernière, les gens qui sont au chômage 3 ans ou plus, ils sont étalés sur l'année. Ceux qui ont 2 ans à 3 ans, ça a augmenté de 3,9%. Donc, on est de plus en plus au chômage de plus en plus longtemps. Donc, avec des ressources très limitées. Alors, on s'étonne que la consommation n'est pas flamboyante. C'est pas étonnant du tout quand on regarde l'évolution des gens qui sont en emploi et des salaires qu'on verse. On se demande effectivement comment on peut encore avoir une croissance dynamique en France. Donc là, motif de tous ces sorties d'emploi et des entrées en chômage. Alors j'ai regardé un petit peu le nombre moyen d'entrées au premier trimestre 2025. Les fins de contrat, c'est 99 000. Les ruptures conventionnelles, c'est 41,4. On t'incite à sortir de l'emploi. Une rupture conventionnelle, c'est la convention, une convention entre toi et ton employeur. Donc, il accepte bien volontiers que tu sortes de l'emploi. Donc, il n'y a plus à te payer, c'est pas grave. Alors, on a aussi des problèmes de motifs. Alors, c'est autre motif indéterminé. Alors, c'est les plus nombreux, c'est 117 900. Bon, on se demande ce que c'est, ces autres motifs. Tu sais, c'est une catégorie fourre-tout, et donc derrière, on peut mettre à peu près n'importe quoi, donc y compris on vire les gens ou pas. Bon. Donc ça, les entrées dans catégorie A de chômage, les autres motifs, ils sont de plus en plus nombreux. Alors, il y a aussi des radiations administratives. Donc, tes radiations administratives, c'est d'office, ton pôle emploi, il te balance, non, t'es plus chômeur. Hein. Donc, il y en a 45 200. Alors, ils ont essayé de limiter quand même les dégâts. L'année dernière, c'était un peu plus. Ils ont beaucoup donné dans ce genre de sortie du chômage. Ça se voyait un peu trop, quoi. Donc, maintenant, ils limitent ça. Alors, par contre, les cessations d'inscription pour défaut d'actualisation, c'est toujours 250 000 personnes. C'est pas mal. Donc là, pour peu que tu loupes un rendez-vous à Pôle emploi, ou que Pôle emploi ne peut pas te recevoir à temps...
ou que Pôle emploi te fixe un rendez-vous au dernier moment, que tu es impossible de...
Donc tu
voilà. Il faut te déplacer.
Faut se déplacer à la date qu'on te donne. Il faut
à l'heure qu'on te donne.
Ah bah, bien entendu. Et donc, dans toutes ces conditions-là...
Après certainement avoir confirmé auprès du centre d'appel téléphonique et tout le Bataclan, avec tout le merdier que ça implique, oui...
Alors, tu vois, le problème, c'est que l'ensemble des indemnités, ça fait augmenter, le chômage augmente, elles augmentent aussi les indemnités. Donc les indemnités, c'est l'assurance chômage essentiellement, c'est passé de 2 615 000 à 2 642 000. Donc ça s'améliore doucement. L'État, c'est l'assurance chômage, hein, ça, mais l'État, il dit un petit peu aussi, il donne un coup de main. Il y en avait 254 000, maintenant il y en a 263 000. Bon, on fait quelque chose pour ces malheureux chômeurs quand même. Hein, bon. Alors, la part des indemnités dans l'assurance chômage, tu vois, elle était de 67% en 2023. Elle est passée à 70% en 2024, au quatrième trimestre. Donc ça, c'est de plus en plus important. Et effectivement, c'est l'assurance chômage qui prend essentiellement le relais maintenant. C'est de moins en moins l'État. L'assurance chômage, elle fait ça à 62,5%. La part des personnes indemnisées parmi les indemnisables, attention, part des indemnisés par rapport aux indemnisables. Donc ça veut dire que tu as les indemnisables et tu as les vrais indemnisés. C'est combien ? 68%. C'est passé à 70,7%. Il y a eu une petite augmentation, ça s'est amélioré parce que ça râlait dans les chaumières. Hein. Bon. Donc la situation du chômage en France se détériore. Il y a de plus en plus de chômeurs. Tout va très bien, monsieur Bérou.
Madame la marquise.
Madame la marquise, excuse-moi, oui. Il a oublié d'éteindre l'incendie entre deux. Hein. Donc, les inscrits, tout ça, c'est des chiffres tout à fait officiels. C'est les indicateurs de la DARES France Travail. D'accord ? Donc, voilà pour des premières indications sur la marquise qui va très très bien. Je crois que ça se passe de commentaires superflus.
Bon, l'écurie est en feu.
Là.
C'est après la chanson.
Si, avec l'écurie.
Une chanson de 1935 qui ouais. est, on pourrait presque dire, d'une actualité.
Voilà.
Même si, bon, on parle plus trop des titres nobiliaires
non,
en France.
Mais...
On parle plus trop des titres, mais il y a pas mal de membres du gouvernement qui ont des titres nobiliaires.
Hein. Absolument. Donc...
Et les revenus qui vont avec.
Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on compare au niveau international, on parlait de consommation, les taux d'endettement. Donc, il y a des taux d'endettement des agents financiers, il y a des taux d'endettement des agents financiers, et il y a des taux d'endettement de l'État. D'accord. Alors, les taux d'endettement des agents non financiers privés, alors, écoute bien, en pourcentage du PIB, Hein, c'est 143,9% au troisième trimestre 2024 pour les États-Unis. Au Japon, ils sont en 168,6%.
Voilà, c'est qui ces agents financiers
les agents non financiers privés, c'est les entreprises, essentiellement.
Voilà.
Donc les entreprises, elles sont bien endettées. Alors, en zone euro, on n'est pas trop mal, puisque c'est 106,3% du PIB, zone euro. Tu diras, c'est pas mal, hein, on était avec un niveau intéressant. Alors, tu regardes les pays, donc l'Union européenne, je rappelle, 106,3%. Bon. Alors, quand tu regardes en pourcentage du PIB, l'Allemagne, elle est à 96,5%. Donc, il y a un endettement qui est normal, hein, puisqu'on a toujours un entretien. En France, 135,1%. Donc, ça veut dire qu'on fonctionne avec de la dette. Donc, la dette, au plus elle est importante, au plus on a de la difficulté à l'entretenir, et surtout, au plus on va payer des intérêts sur cette dette.
À l'entretenir, à la renouveler.
Oui. Hein,
parce que, voilà.
Parce que quand tu regardes ça... Les Italiens, ils sont qu'à 90%. Je te rappelle, le chiffre pour nous, 135,1% du PIB. Donc, on est pas mal dans l'endettement privé des entreprises non financières. Alors, quand tu regardes les ménages, c'est pas si mal que ça pour les Français, ils sont à 60,2% du PIB. Faut dire qu'en Allemagne, ils sont qu'à 50,1%. Donc, les ménages sont moins endettés en Allemagne aussi, qu'en France. En Italie, on dit toujours les Italiens, c'est rien du tout, mais ils sont qu'à 36,3%.
Ah, pourtant, on croyait que les Italiens, c'était magouille et compagnie. Non. C'est plutôt chez nous.
Les Italiens, ils se débrouillent bien.
Oui.
Hein, donc, on n'est pas du tout avec des Italiens qui font la Dolce Vita, etc. Au contraire, ils se débrouillent très très bien. Hein. Donc, les taux des ménages, tout va bien. Alors, après, quand tu regardes les dettes des sociétés non financières en pourcentage du PIB, alors, ici aussi, c'est assez amusant, parce que les États-Unis sont 47,4%, correct. Le Japon, lui, il s'en fout, parce qu'ils gèrent ça tout seul, et ils ont l'habitude, c'est à 103%. Donc, mais ils vivent en circuit fermé, les Japonais, donc ils s'en balancent, leur dette, elle est japonaise aussi, donc ils craignent rien. La zone euro, elle est à 54,5%, mais la France, dans la zone euro, elle est à 74,9%. D'accord. Donc, ces dettes des sociétés non financières, c'est ça qui plombe de plus en plus les comptes, après, parce qu'on paye les dettes. Et on a un indicateur intéressant aussi, parce que ça, c'est la dette brute. Mais après, tu as la dette nette, c'est-à-dire la dette moins la trésorerie que tu possèdes. Parce que les entreprises et les ménages possèdent également de la trésorerie. Bon. Alors, quand tu regardes les États-Unis, la dette nette de trésorerie des sociétés non financières, aux États-Unis, c'est que 37,5%. Donc, c'est pas beaucoup. Le Japon, 42,5%. Ils se débrouillent bien. La zone euro, encore mieux, 28,7%. Donc, on dit qu'on est mauvais dans la zone euro. Pas si mauvais que ça, quand même, en dette nette. Alors, bien entendu, l'Allemagne, elle fait 25,8. Et la France, elle fait combien ? 39,9. Donc on est les plus mauvais élèves. L'Italie, elle fait que 29,7. D'accord ? Et l'Espagne, 29,1. Donc la zone sud, Italie, Espagne, fait beaucoup mieux que la France. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Et le Royaume-Uni, ils sont qu'à 18,1%. Donc on est avec des dettes qui sont pas terribles. Alors, on regarde les dettes des administrations publiques. Ça, c'est important, puisque c'est les dettes de l'État. Aux États-Unis, ils sont en 118,8% du PIB. Donc, c'est beaucoup. Hein. Le Japon, en 229,3, le double. Mais comme je dis, ils fonctionnent en circuit fermé, donc c'est les Japonais qui prêtent aux Japonais, donc c'est pas de problème. En zone euro, on a 88,2, donc on fait mieux que les Américains, et nettement mieux que les Japonais, bien sûr. Dans la zone euro, l'Allemagne, elle est pratiquement au niveau de Maastricht. On avait dit, les dettes, elles seraient
Radio
à
60% Campus.
Du PIB. Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
62,4% du PIB. 62,4. Donc, ils sont pratiquement aux critères de Maastricht. Alors nous, on est brillants parce qu'on fait 113,7%. C'est pratiquement le double de l'Allemagne. Donc on est très très loin des critères de Maastricht. Au trimestre 2002, on était à 113,1, on ne s'est pas amélioré. On avait pensé un certain temps que ça allait mieux, mais pas du tout. Bon, l'Espagne est à 104,3 et le Royaume-Uni est à 101. Donc on est parmi les plus mauvais en ce qui concerne l'endettement de la dette des administrations publiques. Donc, critère de Maastricht, on oublie. Donc, premier bilan de monsieur et madame la marquise, le chômage en France, ça devient inquiétant, il augmente toujours. L'endettement, ça devient inquiétant, il augmente aussi. Ça va être après le service de la dette, parce qu'il faut payer les intérêts de tout ça. Alors, après, quand tu regardes, bien entendu, le déficit public, ce déficit public, les ratios de dette publique, tu vois, il est en évolution rapide. Donc, en 2024, ratio des dépenses publiques par rapport au prélèvement obligatoire, les dépenses publiques, c'est 57,1% du PIB. D'accord ? Les prélèvements obligatoires, ils sont 42,8%. Donc, quand on dit que les prélèvements obligatoires sont 42,7%, c'est quoi les prélèvements obligatoires ? Ben, c'est tout ce que l'on paye en impôts, en sécurité sociale, etc., etc. Donc, ça veut dire que sur 100 euros que tu gagnes, tu en as déjà 42,8 qui fichent le camp. Tu les oublies parce que c'est des prélèvements qui sont faits pour les administrations, la sécurité sociale, etc., etc. Donc, les dépenses publiques, elles augmentent bien entendu. Elles augmentent de 3,9%. L'année dernière, c'était 3,7%. Et les recettes publiques, par contre, elles ont été de 2,2% en 2023. Elles sont passées à 3,1% en 2024. Donc ça veut dire ici que les recettes publiques augmentent bien plus vite. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a des prélèvements qui ont augmenté. Donc on taxe de plus en plus, on balance un petit impôt supplémentaire par-ci, par-là. On a des mouvements qui se font tranquillement en catimini sur les types de prélèvements qu'on a. Donc tout va bien, Madame la Marquise. Alors, tu regardes les dépenses des administrations et les recettes des administrations publiques. Les dépenses publiques, elles étaient 1607 milliards en 2023. On fait beaucoup mieux maintenant, on est à 1670 milliards. Donc, on a augmenté les dépenses publiques. Alors, les dépenses publiques, tu vois, c'est essentiellement des prestations sociales. Elles sont passées de 708,5 à 747,5, d'où les plans que Bayrou est en train de mettre en place pour diminuer fortement tout ce qui est dépenses de sécurité sociale, les aides, etc. On a bien entendu des transferts, des subventions. Les transferts, ils ont baissé également. Et on a des acquisitions d'actifs financiers. Donc les actifs financiers, non financiers plutôt, ils sont passés de 122 milliards à 131 milliards. On achète des actifs non financiers, par exemple, et tu peux acheter des investissements, tu peux faire des investissements dans l'intelligence artificielle, des investissements dans les transports, etc., etc. Donc les dépenses, elles augmentent. Alors, on me dira, les impôts n'augmentent pas. Mais bien entendu que si. Les impôts, ils sont passés de 825 milliards à 841 milliards sur une année. Je pense que tu as dû voir un petit peu ton pouvoir d'achat écorné par les dépenses prélevées par l'État. Donc... on a bien entendu des impôts qui sont liés aux cotisations sociales et on a des impôts qui sont liés sur le revenu, etc., etc. L'essentiel également, c'est des impôts qu'on ne voit pas. Des impôts sur la production, on dit pudiquement sur la production et la production. Ben, en fait, c'est de la TVA, des trucs comme ça. Donc les impôts, là, ils sont passés de 446 milliards à 453 milliards. C'est indolore. Tu ne les vois pas. Tu achètes ta baguette. S'il y a un peu plus d'impôts dessus, tu achètes quand même ta baguette. D'accord ? Tu es bien obligé de manger un petit peu de pain de temps en temps.
Le prix, il augmente légèrement.
Mais il a augmenté de l'argent.
C'est ça, oui, pour une baguette, hein, c'est 1 euro et 10 ou 15 centimes. Ou 20,
alors, tu ne connais pas le prix de la baguette?
Ben, ça dépend de la boulangerie, monsieur.
Absolument, je suis d'accord avec toi.
Et ça dépend du type de baguette, parce que maintenant...
Moi, je prends toujours de la baguette de tradition.
Oui.
Bah, c'est quand même à plus d'un euro, hein, donc...
Bah, oui. Bon. Oui, mais bon, on a changé de monnaie il y a quelques décennies. Là. Avant, ça, la baguette, c'était la baguette à 1 franc.
Ouais.
Ça fait beaucoup de bruit. Hein. C'était à Marseille, un boulanger. Bon, maintenant, c'est 1 euro.
Ben ouais. Hein, c'est beaucoup moins.
1 euro égale 6 francs, 6, 56 ou 55.
6, voilà, 55, ouais, 957.
Oui, voilà.
Donc on dira 6,56.
Mais bon, ça a simplifié les étiquettes de prix
ça,
chez
c'est très
les commerçants.
Pour l'affichage, c'est beaucoup plus... Quoique les prix ne sont pas souvent affichés. Hein. Mon boulanger, j'ai un très bon boulanger. Hein. Moi, franchement, il me fait des produits de vraiment de bonne qualité. Donc je ne me plains pas de ce boulanger. Je ne vais pas me plaindre. Affichage des prix, bon... Heureusement que je connais à peu près les prix et qu'il dit quoi, mais il donne des prix pour les viennoiseries, tu vois. Mais la baguette, tout le monde connaît à peu près le prix, donc il pas les prix. Donc, bon, je lui pardonne bien volontiers, son pain est très bon, donc ça va. Alors, quand tu regardes les capacités de financement, ou des besoins de financement, parce que si tu dépenses plus que ce que tu récupères, t'as un déficit de financement. Donc, là, tu as un besoin de financement. Alors, tu regardes sur les besoins de financement de l'ensemble de l'économie, on est passé de 151,7 à 169,6. Je te parle en milliards, hein, d'accord ? Milliards d'euros. Donc, on a des besoins de financement qui augmentent. Important. Alors, qui est-ce qui augmente ? Ben, l'État, c'est essentiellement l'État, puisqu'on est passé de 151,9 à 52,3 milliards. L'État, il n'arrive pas à faire des économies, il dépense tout le temps, il intervient pour tout et n'importe quoi. Bon, on ne se plaint pas quand c'est pour nous. Hein. Mais il faut qu'il compte ses sous maintenant, M. Bérou. Sans quoi il va finir comme Mme Marquise, hein, il aura un problème. Alors, il n'est pas encore censuré, parce que bon... Alors, ceux qui dépensent aussi un peu plus, c'est l'administration publique locale. 9,5 milliards, ils sont passés à 16,5 milliards. Donc tu vois, quand l'État donne un petit peu moins d'argent qu'avant, c'est en fait parce que les collectivités locales, elles mettent la main à la poche.
Et donc, voilà. Mais bon, c'est l'État qui donne l'argent aux collectivités locales, à moins qu'elles ne s'endettent, mais bon, puis ils ont des travaux, les collectivités locales.
Bah, je te fais pas dire.
Regarde sur le Grand Boulevard, actuellement, là, ils vont abattre 88 arbres.
Ah bon ?
Hein, ce qui paraît, ils sont malades. Bon, il y a quand même eu un orage épouvantable, un morceau de tempête, là, il n'y a pas longtemps. Il n'y en a pas un seul qui a bougé, qui est tombé. Hein. Mais bon, ils vont anticiper.
Ils doivent être malades. Et quand on est malade... Autant soigner tout de suite par la...
Oui, enfin, les malades, ils sont plutôt à la direction de la MEL. Hein. Ils sont malades, il faut qu'ils se soignent. Hein. Pour les maires qui dirigent la MEL, il n'y en a pas un, quasiment, enfin, à quelques exceptions près, ils sont tous à 9000 euros par mois, plus une façon d'arrondir un petit peu...
Tu vois pas les responsabilités que tu as.
Ah bon, les responsabilités, ils sont irresponsables tous.
Puis, beaucoup de responsabilités, beaucoup, beaucoup. De toucher le chèque à la fin du mois.
Voilà, puis après il faut aller à la banque.
Ouais. C'est non, maintenant il y a des virements, hein, de faire ça par virement. Attends.
Non, mais.
Faut quand même pas pousser.
Ces gens-là sont écœurants, ils sont d'une violence, d'une bêtise, c'est incroyable.
Bien entendu, je te disais que le déficit, il était essentiellement du fait de l'État. On dit les administrations de sécurité sociale ne savent pas bien gérer leur truc. Ben, les administrations de sécurité sociale étaient à moins 29 milliards en 2021. Après, elles ont géré quoi ? Ben, des excédents. 8,5 en 2022, 11,5 en 2023 et encore 1,3 milliard en 2024. Donc, le seul secteur qui a un excédent de financement, une capacité de financement, c'est les administrations de sécurité sociale. D'accord ? Bah, y a deux raisons à ça. tu dégages un excédent parce que tu dépenses moins ou parce que tu touches plus. Donc, moi, j'ai pas vu beaucoup de différence sur les cotisations prélevées, donc c'est qui dépense moins. Et donc, la gestion, elle se fait à coup de rabot dans certaines dépenses de santé, etc., etc., quoi. Donc, on peut faire des économies qu'on veut. Mais du moment qu'on est bien soigné, tout va bien. Alors, quand tu regardes la dette de Maastricht en milliards, la dette publique nette, elle était égale à 3 milliards 62 millions d'euros. D'accord ? 3062 milliards, pardon. Je me mélange toujours les pinceaux parce que les chiffres sont tellement impressionnants que j'hésite à dire si c'est des milliers de milliards. Donc c'est 3062 milliards d'euros. Là-dedans, l'État, il fait 2575 milliards là-dedans. Donc on est avec beaucoup de déficits qui est sur l'État, c'est l'essentiel. Hein. Alors, l'administration publique locale, elle est à 248 milliards. Ils étaient à 235. Les administrations de sécurité sociale, ils étaient à 192,1 et 203,6. Je te parle de dette nette. Donc, les dettes de Maastricht, elles augmentent surtout 202 milliards d'euros du fait de l'État. La réponse, elle est assez rapide.
Oui, mais on a un ancien banquier qui dirige la France.
Ah bon ?
Il travaille chez Rothschild.
Ah ouais ? C'est qui ?
C'est une des... Enfin... C'est une des rares banques qui ne soit pas en déficit.
Ouais.
C'est marrant. C'est... Après, ils gèrent peut-être bien leur patrimoine, hein, mais bon...
Je pense qu'ils gèrent très bien leur patrimoine.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de souci.
Oh, ils sont très compétents.
J'avais regardé les comptes de Rothschild. Alors, les comptes de Rothschild, il faut regarder les comptes de Rothschild en Suisse.
Oui, ben ça... D'accord. C'est une famille internationale.
Ah oui, mais tu ne peux pas faire autrement que de gérer ça... au niveau de la Suisse. Donc, ils ont d'excellents comptes. Il n'y a pas de problème. Ils publient leurs comptes. C'est tout à fait transparent. Ils ont des ressources qui sont liées, bien entendu, aux placements qui sont faits par les gros agents financiers. Ils ont des dépenses extrêmement limitées. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'elles font ? Elles prêtent. Et avec ces prêts, qu'est-ce qu'elles touchent ? Des intérêts, etc., etc. Bon. Donc... je t'avais donné les dettes des administrations publiques, on en parlera plus, puisqu'on était tombé d'accord sur le fait que tous ces gens-là, ils avaient beaucoup d'endettement et qu'il n'y avait pas de problème, sauf pour la France particulièrement. Bon. Alors, ceci étant, quand tu regardes pour la dette, il faut aussi regarder un petit peu après quelques agents particuliers. Alors, comme d'habitude, je regarde notre petite famille. Parce qu'ils sont...
Famille régionale. Hein,
notre famille régionale, ils sont un petit peu malheureux. Hein, donc...
C'est vrai. D'après le bloc de la grande consommation, leur chiffre d'affaires ont baissé de 2%. Je ne sais pas si c'est dans le trimestre qui vient de s'écouler, ou en France. Hein.
Tu parles
parce qu'à l'étranger, ça marche bien.
Tu parles d'une toute partie de leurs activités. Parce qu'il n'y a pas que les activités... Dans la grande distribution.
Ah, ouf, je suis rassuré.
Ah bah oui. Attends, la grande distribution alimentaire, c'est une toute petite partie des activités de la famille Mullier. Après, tu as plein d'activités. Tu parles de Décathlon, par exemple. Décathlon, ça marche du feu de Dieu. Décathlon, il a sponsorisé le championnat de France de cyclisme. Il y a une équipe particulière. Il va faire du football, il fait tout. Boulanger...
Et puis Décathlon, ils s'occupent des enfants.
Ah ouais, absolument.
Ah, ceux-là, ce n'est pas des délinquants. Hein. Ils travaillent en usine.
Exactement,
c'est bien. À partir de l'âge de 6 ans, quasiment. Bah, bon, c'est plutôt en Inde, en Indonésie.
C'est pas la même chose.
Il faut
encourager le travail des enfants qui seraient désœuvrés.
Oui.
Et qui pourraient devenir délinquants.
C'est vrai.
Donc, c'est faire œuvre de charité chrétienne que de faire ça. Donc même s'ils sont bouddhistes ou taoïstes, peu importe.
Et puis la mode, enfin en ce moment, les cyclotouristes, ben t'en vaux pas beaucoup parce qu'il fait tellement chaud, mais bon, les cyclotouristes, c'est des arbres de Noël. Hein. Les mecs autour de France, ils ont moins de publicité sur eux.
Oh ben absolument. Quand tu regardes...
Ils achètent des vêtements chers. Ouais, pour faire de la pub pour des cochonneries.
Between, etc. Bon, bah,
oui, pas que des pubs Décathlon. Hein.
Non, mais un peu partout.
Voilà.
Alors, moi, j'ai regardé les grosses sociétés. Hein. Tu sais, on a des sociétés qui s'appellent Acant, Simofat, Valorest, et puis Soliance, qui a remplacé Soderec. Alors, j'ai regardé d'à peu près le bilan. Attention, les bilans en situation nette, c'est la valeur qui reste dans la société. Parce qu'ils distribuent des dividendes quand même, il faut bien nourrir les membres de la famille.
Alors, ah oui.
Chaque année, il y a une société qui se sacrifie. Donc cette année, c'est Acant qui s'est sacrifié pour distribuer des dividendes.
Bon, ils thésaurisent, et tous les X années, ils redistribuent.
Ils redistribuent, donc bon.
Bon.
Ce qui fait qu'ils étaient en solde initial à 6,262 milliards d'euros. À Kant, tout ça là, en capitaux propres. Ils sont passés à 6,41 milliards. Donc tu vois, ils ont distribué à peu près 220 millions d'euros. Oh, c'est une misère. 220 millions d'euros pour l'ensemble de la famille. Bon. Mais pendant ce temps-là, ils n'ont pas distribué ailleurs. Parce que les autres sociétés qui font partie du pôle familial, je te citais à Kant, mais il y a aussi Simofat, Valorest et Soliance, d'ex-Soderec. Alors par contre, quand tu regardes les autres comptes de la famille, donc Simofat, là, la situation nette, elle a augmenté. La situation nette, elle est passée de 2,517 milliards, à 2,551 milliards. Une paille, on a augmenté de 32 millions. Donc ça augmente, tout va bien. Simofat accumule du capital toujours. Alors le résultat de l'exercice en 2023, il était de 222 millions. En 2024, c'est une misère, ils sont qu'à 69 millions de bénéfices. Donc tu vois qu'ils font des sacrifices sur les bénéfices. Hein, donc c'est dur. Valorest, même chose. Ils étaient à 3,709 milliards de capacité financière en capitaux propres. Ils sont passés à 3,756 milliards. Donc une petite augmentation aussi. Là, le résultat de l'exercice a été aussi une misère. Hein. C'était 411 millions d'euros et c'est passé à 103 millions d'euros.
Terrible. C'est terrible.
Mais je te dis, monsieur, ça ne marche plus très bien.
De 4, tu passes à 1, c'est terrible.
Ouais. C'est pas bien du tout. Hein. Donc on a des difficultés à assumer tout ça. Bon, l'essentiel, c'est que ça augmente toujours. Et donc Soliance est passé, lui, à quelque chose de très intéressant, parce qu'il est passé de 207 millions d'euros à 281 millions. Le petit dernier, il n'est pas encore dans les milliards, mais les millions commencent à s'accumuler aussi. Donc tout va bien, résultat de l'exercice, 75 millions. Tout va bien pour Soliance aussi, le dernier petit de la famille. On arrive à une bonne capacité de la part de la famille Mullier sur ces quatre sociétés principales. Donc, tout va très bien, Madame la Marquise.
Voilà, il faudrait que tu nous reprennes les paroles. Tout va très bien, Madame la Marquise. Hein, et que tu changes légèrement le sens des phrases. Tout va très bien pour la famille Mullier.
Ah, tout va très bien pour la famille Mullier. Ça, je te le confirme. On vient de voir les chiffres. Les quatre principales sociétés... Acant, Simofat, Valorest, et puis maintenant Soliance, gagnent bien de l'argent. Ils distribuent aussi aux membres de la famille, parce qu'il faut bien que ces gens-là vivent un petit peu, parce que si tu ne distribues pas un petit peu de dividendes, ils vivent de quoi les nombreux membres de la famille Mullier, ils ne vivent pas d'air et d'eau fraîche. Hein. Donc il faut qu'ils payent des impôts, quoique ils sont souvent en Belgique. Pas Gérard. Gérard est en France. Il ne faut pas l'oublier. Donc lui, il résiste. Il résiste parce qu'il peut résister, puisque ces sociétés sont des sociétés françaises, et que là-dessus, bien entendu, il ne va pas être imposé. Donc, il a un patrimoine qui est composé de titres qui sont des sociétés pour lesquelles il paye des impôts. Donc, il ne va pas payer
deux fois des impôts. Radio Campus, donc, la nuit.
Les rediffusions.
Son job, Gérard Mullier, il n'y a pas de souci particulier.
sauf celui de vieillir, mais enfin c'est un peu comme tout le monde.
On vieillit tous.
Après, rappelons que ce que tu appelles la famille, c'est la haute bourgeoisie de Roubaix.
De Croix.
Roubaix, Croix, Ouascal, un peu de Tourcoing, un peu de Lille, hein, mais enfin, on est d'accord.
Le triangle d'or.
Voilà,
donc,
le triangle d'or.
Ils se portent très bien et ils ont beaucoup de petits-enfants à nourrir, donc c'est normal c'est normal qu'ils augmentent un petit peu leurs revenus, hein, ces bons gens. Donc là, tout va bien. On a vu que l'État français s'endettait, la famille s'enrichit. Donc, enrichissez-vous, disait M. Guizot.
Voilà.
Bah, écoute,
on suit des conseils affichés.
On a passé une chanson de 1935, Guizot, c'était...
c'était 19e siècle, hein, Guizot.
19e siècle, avant Napoléon III.
Ouais, ouais.
Donc voilà, donc avant 1850.
Mais, ouais, mais n'oublie pas qu'eux, ils sont aussi avec l'encyclique Rerum Novarum, donc c'est toujours les bonnes pratiques de l'Église. Hein. Donc ils soutiennent toutes les œuvres de charité, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Hein. Donc par rapport à des tas de gens qui dépensent leur argent n'importe comment, moi je pense comme Arnaud par exemple, c'est quelqu'un de bien. Il indique à tout le monde qu'il est en France. Il n'est pas en France. Ces sociétés sont des sociétés qui sont localisées en Belgique. Il ne va pas s'en vanter dans les médias, là, M. Arnaud. Et il est en Belgique avec des sociétés qui détiennent l'ensemble des titres familiaux. Donc, les titres familiaux en Belgique, les sociétés sont françaises. Donc, tu comprends l'astuce. Les dividendes, ils partent en Belgique. Tout va bien. La famille Arnaud s'enrichit en Belgique. Donc, la famille Arnaud déclare des sociétés en France, mais ses intérêts privés sont en Belgique. Comme une partie de la famille Mullier, d'ailleurs. Hein, mais on n'est pas avec des petites sommes, là. Arnaud, c'est quand même théoriquement la première fortune de France. Et une des plus importantes fortunes du monde. Donc, quand il dit « Moi, je vais travailler en France », j'hésite. Je ne sais pas s'il se moque des gens ou s'il se moque de l'État français. Parce que quand on est en Belgique, je ne vois pas où on fait travailler la France. Alors, ces sociétés sont pour partie françaises, mais elles sont mondiales, ces sociétés. Quand tu regardes LVMH, etc., il y a la partie française de LVMH est une toute petite partie du fonctionnement de sa société. C'est pas du tout une entreprise qui fait travailler beaucoup de Français. Hein, quand on regarde l'évolution des emplois entre la France et l'étranger, l'essentiel, c'est des emplois étrangers. C'est pas des emplois en France. Les ateliers qu'il fait fonctionner ne sont pas des ateliers en France. Il y a très peu d'ateliers en France. Les ateliers en France, celui qui en a le plus, c'est pas Arnaud, c'est Hermès. C'est très différent.
D'accord.
Hein? Donc Hermès, lui, il est bien localisé avec des ateliers, beaucoup d'ateliers en France, et il fait travailler des ouvriers du luxe français. Ce n'est pas tout à fait le cas de M. Arnaud. D'accord. Lui, il fait plutôt travailler des ouvriers du luxe à l'étranger. Il y avait d'ailleurs eu une mission à l'époque, c'était de qui, je ne me rappelle plus, de notre trublion député, je ne me rappelle plus de son nom. Pourtant, je connais lui. C'est pas grave, on va le retrouver, notre petit trublion.
Oui.
Mais la mémoire nous fait défaut à notre âge bénéfique.
Était journaliste à France Inter, il a travaillé là-bas, qui j'y suis.
Il est
on dira son nom tout à l'heure, hein, continue.
Ouais, c'est pas grave. Donc il est député, tout ça, c'est très bien. Mais lui, il avait fait des enquêtes où il montrait qu'effectivement Arnaud faisait travailler essentiellement à l'étranger. Donc contrairement à ce qu'il racontait aussi, c'était pas en France que ces ateliers faisaient fonctionner les usines de luxe, mais c'était plutôt dans les pays de l'Est, enfin dans les anciens pays de l'Est. Donc on avait absolument, et notamment en Roumanie, hein, donc c'est bien les Roumains, ils parlent bien français. Donc ils comprennent bien ce qu'on leur demande de faire.
Ils ne sont pas payés cher.
Et puis ils ne sont pas payés cher.
Vraiment pas cher. Hein.
Je ne vais pas dire.
C'est d'ailleurs les salaires les plus bas de l'Union européenne.
Donc, et c'est une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Moi, je suis allé plusieurs fois au Mali, je t'assure que c'est des gens qui bossent bien.
Hein. Ah bah ouais, c'est l'héritage des pays... anciens pays de l'Est, voilà. Hein. François Ruffin.
François Ruffin, oui. C'est bien ça. Donc, François, il a fait un très beau reportage que M. Arnaud n'avait pas très apprécié à l'époque. Mais il ne l'a pas attaqué au juste, et c'est bizarre, parce que il avait raison, Ruffin. C'est, sans quoi il se serait fait tailler en pièces par les nombreux avocats de
la famille Arnaud. Il vérifie ses informations.
Ben, nous aussi, on vérifie nos informations.
Voilà.
Et toutes les informations qu'on vous donne, on peut les vérifier sur pièce dans tous les cas, et notamment le fait que M. Arnaud, sa fortune personnelle est en Belgique. Je le dis, je le redis, parce qu'il dit souvent le contraire. Hein ? Alors, je ne mélange pas LVMH, qui est en France, avec la fortune personnelle de M. Arnaud, qui est investie en Belgique. Voilà. C'est dit une fois pour toutes. Donc s'il veut m'attaquer, je suis à sa disposition.
Voilà, à propos d'attaque, c'était le jeudi 19 juin. Rappelons que la boutique Louis Vuitton à Lille a été victime d'une attaque à la moto Bélier. Bon, hein, c'est dommage, c'est un si beau bâtiment. Je parle de l'ancien bâtiment du restaurant et traiteur L'Huîtrière.
Ouais, c'est vrai.
C'est un véritable,
un véritable joyau, ça.
C'est un véritable joyau.
L'architecture,
hein,
ouais.
Hein, après, ce qu'il y a dedans, c'est pas si joli que ça. Je suis désolé de le dire, mais bon... Ah ouais, ça a de belles couleurs, mais bon...
Louis
Vuitton...
Le luxe à la française, je préfère largement Hermès à LVMH. Hein, il n'y a pas photo là-dessus. Hein. Mais là, on a des vrais artisans chez Hermès. Bon, donc voilà, en gros, ce que je pouvais dire sur tous ces braves gens. Alors après, si tu veux, il y a encore des possibilités de détailler tout ça. Hein. Le problème, c'est que, bon... c'est pas très nécessaire. Il faut plutôt parler maintenant de notre brillant camarade Trump. C'est encore un autre genre de personnage. Alors,
c'est un personnage.
Ça, c'est un personnage, d'accord.
Après, bon, c'est un milliardaire.
Oui.
Qui est devenu président des USA. Enfin, tous les présidents des USA ont été milliardaires, quasiment.
Oui, à un moment ou à un autre.
Voilà. Donc, bon, c'est
même le vendeur de cacahuètes.
Oui, le vendeur de cacahuètes, qui est toujours là, hein, rappelons-le. Il sucre les fraises, mais bon...
il est toujours là, le vendeur de cacahuètes. Donc, Trump, il s'amuse beaucoup en ce moment, je trouve. Quand tu regardes... Il gère le monde comme ça, il dit aux Israéliens qu'est-ce qu'ils doivent faire, il dit à l'Iran qu'est-ce qu'ils doivent faire, il dit à l'Europe qu'est-ce qu'elle doit faire.
Et l'Europe obéit.
Ah ben l'Europe, j'espère, hein, parce que sinon ça va faire mal. Maintenant on va devoir augmenter nos dépenses militaires.
C'est vrai.
Et il faut nous défendre. Hein.
Ah, je sais pas.
Contre la Russie, alors qu'ils téléphonent constamment à Poutine,
Trump. Voilà. Les Russes n'en ont rien à foutre de venir en France. L'armée russe, j'entends.
Qu'est-ce qu'ils viendraient faire en France ?
Voilà. Alors, petite information, hein, puisque, les Russes, c'est des monstres. Hein, donc,
En
Ukraine, il faut envoyer des mercenaires pour se battre contre les Russes.
Ouais.
Ouais, mais les mercenaires appartiennent à des pays qui ne sont pas en guerre contre la Russie.
Ouais.
Donc les lois de le règlement de Genève
s'applique pas. Non.
Fusillé.
Normalement.
Voilà.
Après
c'est des bandits, c'est des gangsters.
Ils se débrouillent comme ils veulent, hein, mais
ça... quand ils sont pris, c'est pas beau.
Ah bah oui, mais on n'y peut rien. La guerre, c'est jamais joli. Hein.
Après la Sibérie, c'est pas mal pour les vacances.
La Sibérie.
Les longues vacances.
Moi, j'aimerais pas trop aller en Sibérie passer mes longues vacances.
Moi non plus. Après, il y a des paysages extraordinaires.
Ouais.
Tu creuses, tu as des minéraux extraordinaires.
Tu deviens riche, quoi.
Ouais, enfin après, il faut transporter ce que tu as trouvé.
ça doit être un peu difficile.
C'est un peu difficile. Après, la Russie, bon, c'est une histoire étrange, la Russie, mais c'est quand même un pays qui a, je ne sais plus, qui a toujours eu 8-9 000 kilomètres de frontières.
Bah oui,
comment veux-tu garder tes frontières? Tu ne peux pas te protéger.
Je ne sais pas si tu vois, tu es du côté de l'Atlantique et du côté du Pacifique.
Oui, non, mais c'est grand, ouais. Et puis, en haut, c'est l'Arctique. Hein.
Oui, en haut, c'est l'Arctique. D'ailleurs, il passe par l'Arctique de temps en temps, donc oui. Maintenant que ça se dégèle, avec l'effet climatique, ils peuvent passer par l'Arctique. Donc c'est bien, ça raccourcit les délais de transport de certaines marchandises. Alors, le problème, bien entendu, c'est que par rapport à ça, il faut pouvoir les exploiter correctement. Et là, c'est beaucoup moins évident, hein, dans ces zones-là. Attention, il n'y a pas que des ours polaires.
Voilà, ouais.
Donc, difficile de pouvoir trouver des modes d'exploitation adaptés à ce genre de climat et surtout de transport après des choses que tu récupères, quoi. Bon, donc ici, on est avec Trump qui s'amuse beaucoup. Alors, je ne sais pas quel jeu il joue, si tu veux, en fait. Quand tu regardes avec l'Iran, il aura balancé une bombe. Pas très propre, hein, quand même. Donc cette bombe, elle a fait pas pchit, mais on ne sait pas très bien le résultat. Ceci étant, les Iraniens se tiennent à carreau pour l'instant.
Se tiennent à carreau, mais c'est pas des abrutis. Alors leurs centrales nucléaires, ils les ont enterrées très profondément.
Ça doit être voilà. Bien protégé.
Hein, et
l'uranium a été déménagé. Avant que les frappes n'arrivent.
Ah, puis en théorie, de l'uranium très peu enrichi. J'ajoute que
enrichi,
quand on voit le bordel qu'a foutu Tchernobyl,
ouais.
quand cette centrale nucléaire a pété, aller bombarder d'autres centrales nucléaires, il ne faut pas être bien dans la tête. Mais
c'est,
bon, c'est pas comme
très,
ça.
Ce n'est pas très indiqué. Hein, parce que bon, l'Iran, il bombarde l'Iran à ce niveau-là, bah, Israël est touché de la même façon. Hein.
Voilà, exactement. J'ajoute que l'Iran, l'Angleterre et les pays anglo-saxons, donc maintenant les États-Unis, bah, sont en guerre contre l'Iran depuis 120-130 ans,
donc,
pour piquer le pétrole.
Bah.
Mais ils ont l'habitude, les Iraniens, ils connaissent.
Ils connaissent bien.
Puis alors, s'ils s'amusent bien au Yémen, bloquer le détroit d'Hormuz, alors là, c'est la catastrophe. C'est comme si on bloquait le canal de Suez, en gros, sauf que c'est avant.
Parce que toute la partie asiatique de nos marchandises...
Oui, arrive par
ce détroit.
Ce détroit, et remonte la mer Rouge.
Et remonte la mer Rouge.
Jusqu'au canal de Suez, voilà.
Voilà, donc il y a deux petites possibilités de bloquer l'ensemble du commerce mondial en provenance d'Asie. Ben, il y a Hormuz et le canal de Suez.
Voilà.
C'est tout simple, hein. C'est pas compliqué à mettre une petite bombinette.
Quelques mines.
Quelques mines, c'est déjà pas mal.
Vite fait.
Il suffit de couler un gros navire. On a vu ce que ça a donné quand il y a eu un problème avec un cargo. Mmh. Ils ont bien été embêtés pour le déménager de là. Hein. Donc, s'il y a un gros, disons, CMA-CGM, pour faire simple. c'est une de nos grandes fortunes, quand même,
voilà,
CMA-CGM.
Oui.
Hein, d'accord. Donc... si un de nos gros porte-containers avec plein de marchandises dedans se fait bloquer, ça va être difficile à renflouer quand même.
Ah ouais, mais bon, t'imagines un peu, regarde, on est au mois de juillet, début juillet, si un porte-container se fait bloquer là-bas, plus de décoration de Noël.
Bah oui, il suffit d'un porte-container pour les...
Oui, voilà.
D'accord.
Puis quand tu vois le nombre de conteneurs qu'ils mettent là-dedans maintenant...
C'est fou.
Voilà, c'est fou.
Donc, la CMA-CGM, bon, bah, par rapport à ça, c'est une boîte qui marche du feu de Dieu. Ça a des... C'est maintenant la deuxième grande fortune de France. Il ne se fait pas de soucis particuliers. Hein. Donc, il a récupéré des sociétés de télévision, des sociétés de radio, des journaux. Là aussi, on a quelqu'un qui devient un personnage assez important dans l'ensemble des activités audiovisuelles françaises. D'accord ? Donc, c'est pas par hasard qu'ils investissent toujours par là. Donc, tout ce qui est, disons, outils de pouvoir, ils sont en train de les acquérir. Je ne sais pas s'il y a encore une presse libre en France.
Non. Où ça ?
Ouest-France, peut-être, mais c'est un groupe assez particulier, quoi. Mais la presse vraiment libre, elle est quand même aux mains de gens très capitalistes. Et donc, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils veulent en faire, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quels intérêts ils veulent vraiment défendre, si c'est uniquement les leurs ou si c'est leurs intérêts de classe au sens large, ça c'est clair. Mais après, ils veulent nous bourrer le crâne quand même.
Bah, les gens s'en aperçoivent, puisque de moins en moins de gens achètent les journaux, les revues, sauf celles qui sont spécialisées dans un domaine précis, je ne sais pas, l'aéromodélisme, je veux dire, c'est... Hein, bon.
Voilà. Donc moi, la presse, bon, j'utilise parce que c'est un outil, mais croire en ce que disent encore les journaux, il faut avoir une bonne dose de critique au départ pour pouvoir se faire une idée vraie de la vérité en question, quoi. Voilà. Donc, on disait par rapport à Trump, qu'est-ce qu'il fait encore ? Ben, il continue à jouer. Bon, alors je sais pas s'il va envahir le Groenland, ça peut être.
C'est extrêmement simple. Hein. La France peut envahir le Groenland, il n'y a que 35 000 habitants.
Ouais.
Après, il faut passer l'hiver.
Oui, mais puis d'une part, s'il attaque le Groenland, il attaque un pays de l'Union européenne.
Non, mais bon, oui, l'Union européenne, elle se couchera, comme d'habitude.
Non, on a notre présidente de l'Union européenne, j'espère qu'elle va réagir vivement à une toute tentative de déstabilisation du Groenland par M. Trump, j'espère.
Oui, ils feront quelques discours.
Oui, comme d'habitude. Donc, on est habitué à ça. Mais le reste, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour faire quoi que ce soit par là. Hein. Donc, le Danemark, il va s'écraser. De toute façon, il n'y a pas intérêt à dire quoi que ce soit. Et l'Union européenne, vu ce qu'elle est... c'est quelle union, en fait ? Moi, je m'interroge beaucoup sur l'Union européenne. On a des pays, quand même, qui sont très disparates. L'Espagne...
Bah, c'est ce qui pose un problème.
Bah oui, l'Espagne, par exemple, elle a dit, moi, Trump, il peut me dire ce qu'il veut, moi, je fais de mon côté ce que j'ai envie de faire. Ils ont raison. On est souverain chez soi. D'accord ? Bon, la France, comme d'habitude, notre président s'insurge contre toute tentative de déstabilisation et de prendre une parcelle de son petit pouvoir. Bon, mais il fait rien. Il peut rien faire. On l'a vu avec les gens qui étaient tous réunis là, cette semaine ou la semaine dernière. Il n'y a rien eu de terrible d'annoncé. Ils étaient tous en rondondion pour accueillir les personnages éminents qu'ils avaient invités. Tu as vu quelque chose de changé, toi ? Rien du tout. Alors, tu rigoles, mais tu prends par exemple quelqu'un comme Viktor Orban. Alors lui, il fait ce qu'il veut, comme il veut, où qu'il veut. Donc, il a dit, moi, je fais ça, vous vous démerdez, entre guillemets. Hein. On est plus poli que ça, hein. Habituellement, dans le monde politique et dans le monde des affaires. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire.
Voilà, après, Viktor Orban, lui, sa frontière, ça va être la Russie.
Ouais.
Enfin, avec l'Ukraine et la Russie. Donc,
ouais.
Il n'est pas tout à fait dans la même position qu'un grand bourgeois.
Exactement.
À Paris, il nous reste à peu près 1 minute 40, Benoît.
Il reste combien ?
1 minute 40.
Ah bon. Donc, par rapport à ça, je veux dire, notre cher président, comme d'habitude, il ne va rien faire. On sait très bien que pour leur... disons, nos destinées en termes économiques, sociales et politiques, elles sont liées à une personne qui ne fait rien.
Quoique, là, il parle de vider les EHPAD pour mettre, des prisonniers à la place.
Ah bon ?
Oui, puisque les prisons sont quand même pleines, hein,
oui.
En France, mais pleines à craquer.
Bah oui.
On en construit quelques-unes, des nouvelles, mais enfin, il faut le temps de les construire.
D'une part, et puis, construit surtout des quartiers de haute sécurité.
Voilà.
On va en accueillir un dans le nord, je pense, c'est avant le Vieil, c'est ça
Oui, probablement, enfin, on verra.
Et donc, bon, on sera rassurés, quoi.
Voilà. Et sur ces paroles...
Tout va très bien, Madame la Marquise.
Tout va très bien, Madame la Marquise. Alors bon, comment dire, le leitmotiv de l'État semble être « buvez de l'eau et fermez vos gueules ».
Ouais.
Pour ce qui est de la fermer, ça ne se passe pas comme ça sur Radio Campus Lille.
Tout à fait.
Sur ce, c'était les bons calculs économiques avec Benoît Boussemard et André.